Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Alors aujourd'hui, un nouvel invité dans Monnaie Libre. Je reçois Sybille Saint-Girons. Bonjour Sybille.
Bonjour.
Alors Sybille, tu es titulaire d'un MBA que tu as passé à Évry.
C'est ça, un MBA couplé Université d'Évry et INSEAD et qui s'intitule Dynamique humaine et développement des organisations. Et ça décrit vraiment ce que je fais actuellement.
D'accord, donc alors voilà, donc c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, parce que ça t'a amené ce parcours-là à créer une association qui s'appelle Valeureux.
Valeureux, tout à fait, sur Paris.
Voilà, et qui s'intéresse à ce thème que tu as développé dans ce MBA, l'organisation, un petit peu la communication, l'organisation, qui t'a amené notamment à t'intéresser au thème de la monnaie.
Tout à fait. Parce que la raison d'être de l'association Valeureux, donc je suis cofondatrice et présidente qui existe depuis 4 ans maintenant, c'est actualiser les richesses. Alors ce qu'on entend par actualiser les richesses, c'est développer les potentiels individuels, collectifs, et dans toutes sortes de richesses, pas que la richesse monétaire. Et pour ce faire, eh bien, on utilise toutes les nouvelles ou anciennes choses pour actualiser les richesses. Bien sûr, toutes les monnaies alternatives, les formes de gouvernance alternatives, et aussi les nouvelles façons de compter comme les nouveaux indicateurs et les processus d'intelligence collective. Et ça, ça va se traduire par de l'éveil, des conférences, des jeux dont on parlera tout à l'heure. Et même donc des accompagnements, et aujourd'hui on est même en train de créer un logiciel, donc un logiciel web, pour actualiser les richesses toujours.
Oui, alors on va parler de ce logiciel, on va parler du jeu aussi tout à l'heure, puisque ça va même le cœur de cette émission. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Tout à fait.
C'est Gérard Fouché qui nous a demandé d'intervenir dans un événement qu'il organisait. Et j'avais découvert ton jeu, qui est à base de jeux de cartes, on en parlera tout à l'heure, qui je trouvais était vraiment excellent. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de le faire connaître, de le partager avec les auditeurs, et qui, pourquoi pas, pourrait faire appel à toi aussi pour l'organiser quelque part. Et alors, avant, on va parler aussi de ce que tu viens de nous citer aussi, c'est cette histoire de logiciel. Là, tu crées un logiciel donc au sein de cette association qui a un lien avec la monnaie. Alors, tu vas nous expliquer un peu quel est son rôle.
Donc, en fait, Valeureux a une vocation aussi d'être comme une fabrique participative pour créer des outils et des processus en bien commun pour actualiser les richesses. C'est comme ça qu'on crée des jeux, des processus d'accompagnement. Et aujourd'hui, on a décidé de créer, de développer un logiciel. C'est un logiciel qui répond en fait à trois problèmes actuels, qu'on n'a pas d'argent, il y a une dispersion de l'énergie avec un turnover, dispersion même des outils utilisés, enfin vraiment une dispersion de l'énergie. Et puis, on a un manque d'impact des actions. Et du coup, au lieu de, comme aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de logiciels pour notamment des places de marché avec des monnaies complémentaires ou des monnaies numériques ou virtuelles, comme on veut les appeler, nous, on n'a pas voulu refaire quelque chose comme ça, mais plutôt intégrer ces nouvelles fonctionnalités aux outils existants, performants pour les entreprises qu'on appelle des ERP, pour en anglais Enterprise Resource Planning, ou en français PGI, Progiciel de Gestion Intégrée, dont le plus connu est SAP, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais nous, on s'appuie sur OpenERP, qui est la même chose, beaucoup plus souple, et bien sûr en open source libre, et avec une immense communauté mondiale d'utilisateurs et de développeurs. Donc on s'appuie sur quelque chose de très solide qui fait de la facturation à la gestion de projet, à la comptabilité, enfin toutes ces fonctions de l'entreprise sont déjà couvertes. Et nous, on rajoute dessus un module de place de marché, une gestion multi-devise avec multi-design possible de monnaie d'échange, d'outils de reconnaissance, d'outils d'échange, comme on veut les appeler, parce que j'aime pas trop utiliser le terme monnaie. Et puis on va aussi rajouter, parce qu'aujourd'hui, parce que Valeureux, est au service surtout des communautés de la transition, des associations de l'ESS, de tous ceux qui œuvrent à une société plus prospère et joyeuse, comme j'aime le dire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros besoin d'améliorer la gestion de projet, mais aussi tout ce qui est innovation participative pour justement éviter cette dispersion et qu'on puisse rassembler les projets simplement par émergence participative, si plusieurs personnes sont au courant, peuvent se rassembler sur un projet ou pour soutenir des idées ou des bonnes pratiques, mais plutôt que de faire du bruit comme je dis, sur Facebook. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à qualifier l'information. Donc ce n'est plus une question de quantité, c'est une question de qualité. Et d'ailleurs, la monnaie, les monnaies d'échange sur la plateforme, il est possible, et je le préconise fortement, d'y associer aussi des indicateurs de qualité. Comme ça, en fait, l'échange va pouvoir être vu dans sa quantité et aussi dans sa qualité, parce que je pense que c'est vraiment les deux, et on a deux bras, deux jambes, donc il nous faut la qualité et la quantité.
D'accord. Alors, on va essayer de clarifier un peu. Hein. OpenERP, oui. Bon, je vois à peu près, hein, effectivement, c'est une espèce de fourre-tout organisationnel pour une entreprise. Je vois à peu près ce que c'est. Mais alors, bon, sur Monélite, bien sûr, on connaît les monnaies. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les monnaies, bien sûr. Et on connaît aussi des logiciels de monnaie. Alors, on connaît un qui est assez célèbre parce qu'il existe depuis assez longtemps. Bon, il est centralisé, mais il est quand même open source. Donc, ça, c'est intéressant. Ça s'appelle Cyclos, par exemple, hein, qui permet à toute communauté qui le souhaite, de créer sa monnaie avec le code monétaire que l'on veut, très important, parce que sur Monnaie Libre aussi, on va s'attacher à justement avoir un regard extrêmement poussé, extrêmement fin sur le code de la monnaie, comment la monnaie notamment se crée, hein, plus que même qu'elle s'échange, puisqu'a priori, il ne devrait pas y avoir de frais à l'échange de la monnaie, mais sur la création, là, il y a un souci à repérer.
Tout à fait.
Ouais, et on en parlera bien sûr avec ton jeu tout à l'heure, ça va être très intéressant. Mais alors, il y a Cyclos qui permet de gérer des monnaies, il y a Bitcoin bien sûr qui est très connu maintenant, il y a eu plein de forts de Bitcoin aussi, les Frycoin, les Litecoin, etc. Alors il y a d'autres projets monétaires qui eux sont plutôt des projets de monnaie libre, tels que OpenUDC, Ucoin maintenant, qui sont fondés sur les principes de la TRM, de la théorie relative de la monnaie tout simplement, et puis qui donc vont créer la monnaie sur un modèle de dividende universel. Bon voilà, donc on a plusieurs types de monnaies. Et alors tu nous dis que toi, tu as voulu rajouter un module à OpenERP donc, qui permette plus ou moins de relier, de faire une place de marché interdevise, c'est ça? Alors comment ces monnaies-là, quel est le lien avec ces monnaies-là? Est-ce qu'il y en a un?
Alors plutôt qu'avec ces monnaies, je dirais plutôt avec ces plateformes, parce qu'ils vont servir plusieurs monnaies et que je les connais très bien et même personnellement, parce qu'on peut rajouter le logiciel de Community Forge qui est peut-être encore plus en open source puisqu'il est gratuit, alors que Cyclos coûte quand même de l'argent.
Oui, un peu. Oui.
Un peu, c'est plutôt pour des gros projets, je dirais, qu'il faut l'utiliser. Et chacun a bien sûr sa place et je pense qu'il faut proposer une diversité comme pour les monnaies d'ailleurs. Et en fait, pour moi, l'intérêt de ce qu'on propose, c'est qu'au lieu de faire une place de marché qui est dans un CIO, et où du coup, toutes les actions qu'on va pouvoir faire, il va falloir pour un gestionnaire d'entreprise recopier ces actions dans ces logiciels de comptabilité, de facturation, etc. Là, on a relié directement, ce qui fait que, par exemple, si vous avez publié une offre, quelqu'un y répond. Donc, il y a tout le processus très, très strict de validation, de négociation entre les gens jusqu'à ce qu'il y ait un accord soit abouti, l'échange a lieu. Eh bien là, ça va aller jusqu'à générer une facture. Ça peut même aller dans votre stock. Si vous venez de lui vendre en monnaie complémentaire quelque chose que vous gérez dans le stock, s'il y a une annulation, ça pourra gérer l'avoir et ça va générer tout de suite vos écritures comptables chez vous et aussi chez votre acheteur.
D'accord, donc si on résume, en fait, donc c'est un ajout sur un ERP d'un module qui va permettre de gérer en fait une place de marché, donc une place d'échange, et qui, lors d'un échange, indépendamment de la devise, va pouvoir intégrer cet échange finalement dans la comptabilité traditionnelle
et la gestion de projet, parce que s'il y a une offre, ça peut vous déclencher une tâche.
D'accord.
Et vous avez une alerte pour la faire.
Et donc pas forcément dans la monnaie officielle classique.
Non, en fait c'est multimonnaie. Voilà, donc on peut très bien utiliser l'euro et on peut relier cet OpenERP au système bancaire même, ou pas, comme on veut. Et on peut faire tout genre de monnaie, qu'elle soit suffisante, abondante ou rare.
Et y compris plusieurs monnaies. On pourrait envisager donc pour une même. Finalement entreprise de gérer comme ça plusieurs flux, par exemple de pouvoir faire un échange en dollars, en euros, qui est très bien, mais aussi en bitcoin par exemple.
Voilà, exactement.
Ou en UDC demain, ou en...
Avec soit une option de traçabilité, soit vraiment une interconnexion avec les systèmes bancaires, si bitcoin par exemple ouvrait une API pour qu'on puisse toujours savoir où vous en êtes sur votre compte, ça serait possible. Pour le moment, ça sera plutôt déclaratif, puisqu'on ne peut pas avoir accès à votre porte-monnaie Bitcoin.
Oui, si on peut, parce qu'il faut donner la clé.
Oui, bon, c'est l'histoire d'API. Ouais. Et ça viendra. Plus ça va. Mais oui, c'est vraiment l'idée multi-devise, multi-outils d'actualisation de richesse, comme je les appelle. Et par exemple, dans la communauté Valeureux, on a sur cette place de marché, on utilise les euros, parce qu'on trace les euros, et aussi une monnaie qu'on a appelée VAL. Donc ça, c'est une monnaie d'échange basée sur le crédit mutuel, avec toutes les limites qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont... Et c'est pas à Stéphane que je vais expliquer les limites du crédit mutuel, mais pour le moment, c'est la meilleure solution. Et on a aussi des monnaies de reconnaissance, de gratitude, et puis des indicateurs de qualité.
D'accord, alors comment s'appelle ce projet, ce module en fait?
Alors tout ce projet s'appelle Weezer, W-E-Z-E-R, parce que c'est pour dynamiser le « oui », le « nous ».
D'accord, et si on veut trouver des informations dessus, on va sur le site de Valeureux?
Sur le site valeureux.org ou weezer.org.
D'accord.
Donc c'est un projet participatif où tout est coproduit, c'est-à-dire que des communautés qui en ont besoin s'assoient autour de la table pour co-financer les modules, parce que je vous ai décrit que quelques autres modules, mais il y en a d'autres. Et ça va être aussi co-développé avec les développeurs. Et donc, si des développeurs veulent venir nous aider, ils sont plus que bienvenus. Mais aussi des traducteurs, des formateurs. Et ce logiciel sera aussi implémenté avec un processus participatif et un accompagnement. Parce que c'est des sujets tellement nouveaux que je pense que ça peut être délicat qu'on juste on télécharge. Ça sera possible, mais je le déconseille, qu'on télécharge le logiciel et qu'on l'installe. Alors que ça demande
une formation
et même un changement d'attitude et des changements de comportement. Et en plus, on a fait le logiciel qui puisse être paramétrable, c'est-à-dire que les communautés doivent décider quel genre de monnaie, pour servir quoi, avec quelles limites, quelles règles. Et c'est pour moi, donc techniquement, c'est très simple d'aller le coder, mais tout ce processus participatif va faire que va créer l'appropriation, l'adhésion. Et sans ça, si une communauté impose une monnaie sans qu'il y ait une réflexion collective, je pense que ça ne marchera pas. Et que c'est peut-être même encore plus important le chemin que le résultat, même si on sera très content quand les monnaies seront créées, mais le chemin de les créer ensemble vont nous aider à coopérer.
Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, ça y participe, évidemment. Mmh. Il vaut mieux avoir compris avant que trop tard. Donc...
C'est ça. Et là, j'applique parce qu'en fait, autrefois, j'étais informaticienne aussi. Je faisais des logiciels sur mesure pour les grosses entreprises, pour l'organisation de tout genre et même des ERP qu'on n'appelait pas encore ERP. Et j'ai toujours vu que l'accompagnement au changement, c'était fondamental pour l'utilisation d'un logiciel.
La formation des utilisateurs.
Il nous faut la technologie et il nous faut le côté humain. Oui. Et c'est ce que Valeureux... de promouvoir, d'avoir vraiment ces deux côtés. Comme quantité et qualité, c'est techno et conscience ou humain.
Oui, formation, accompagnement, discussion.
Et où le jeu, finalement, est une combinaison des deux.
Voilà, donc on va arriver au jeu. Donc ça, c'est la première partie. Donc ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas avant aujourd'hui. Hein. Moi, je t'avais connu sur cette histoire de jeu, et c'est ça qui m'avait intéressé. Alors, donc dans ton activité, hein, tu interviens aussi donc justement pour travailler un peu la conscience et la compréhension de la nature de la monnaie, du rôle de la monnaie que peut avoir la monnaie. Alors, tu as mis au point un jeu vraiment très intéressant, très bien fait, qui est en fait à base d'un jeu de cartes. Voilà, donc dont tu vas nous parler. Alors, dans cette première partie, on va d'abord parler du jeu en général et puis de sa première application. Il y en a en tout trois, hein, déjà, voire même quatre. Il y a trois ou quatre étages en fait du jeu. Il y a plusieurs étages, plusieurs prises de conscience successives. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vécu comme quelque chose qui était pensé pour faire ça. Prise de conscience successive de rôle de la monnaie dans une économie. Et voilà, donc tu vas nous présenter ce jeu. Alors, est-ce qu'il a un nom, ce jeu de cartes?
Oui, alors en français, il s'appelle La Corbeille, parce que c'est pour rappeler la bourse, qui n'existe plus aujourd'hui, hein, ouais. La Corbeille. Et en anglais, The Floor Trading Game, puisque j'ai développé ce jeu avec Matthew Slatter, de Commodity Forge, qui est anglais. Donc, il a été développé directement en deux langues, et il est en Creative Commons, et vous pouvez trouver toutes les références toujours sur le site.
La corbeille. Alors, on le trouve sur Valeureux aussi.
Sur Valeureux, voilà, ouais. Et en français et avec le lien en anglais
Alors vas-y, alors explique-nous ce jeu de cartes, c'est super, moi je trouve voilà. Génial.
C'est très alors, simple en plus. Juste, je vais expliquer comment est arrivé, ouais. En fait, moi j'ai participé à beaucoup de colloques sur les monnaies, ça fait des années que je suis là-dessus, et j'en avais un petit peu marre de tous ces grands penseurs qui parlent beaucoup de monnaie, mais qui n'ont même pas expérimenté de monnaies différentes. Et puis, je me confrontais aussi que quand j'expliquais dans des conférences aux monnaies, ça restait totalement abstrait, ou alors, il fallait que les gens me croient comme si j'étais détentrice de la vérité, parce qu'ils avaient du mal à appréhender ce que je disais. Et du coup, avec Mathieu, on a réfléchi à créer un jeu qui va leur faire expérimenter, et c'est les personnes elles-mêmes qui vont se rendre compte, plutôt que d'écouter et de croire ce que je dis.
Toujours mieux.
Voilà. Et du coup, maintenant, il est présenté très souvent, même avant des conférences théoriques, parce que quand on a expérimenté, on va être beaucoup plus à même d'écouter les concepts derrière. Et puis, je le présente aussi pour des chercheurs, pour qu'ils puissent expérimenter leurs mécanismes monétaires.
D'ailleurs, un des problèmes des économistes actuellement, c'est qu'en général, ils n'ont jamais fait d'activité économique.
Exactement.
Donc, en fait, ils n'en parlent que d'un point de vue strictement théorique, sans jamais l'avoir fait.
Oui.
Bon, alors que c'est quand même mieux d'avoir été peut-être un peu salarié, un peu entrepreneur, un peu avoir touché un
tout
peu à des choses réelles dans l'économie, pour avoir une petite idée de ce que ça peut être la oui. monnaie, d'un côté positif, mais aussi négatif, quand elle ne marche pas
tout
comme
à fait. Quand je faisais mon MBA, j'ai eu des cours de très haut niveau d'économie, et je me suis pas mal discuté fortement avec l'économiste.
Discuté.
Non, on était tout à fait dans l'écoute, mais on voyait que c'était... Et justement, de le confronter à ce qu'ils n'ont... Ils ne sont plus connectés à la réalité.
Ouais,
voilà.
Ça reste...
Donc le jeu reconnecte à la réalité,
voilà.
Et redonne la souveraineté, parce que pour moi, tout ça, c'est une question de souveraineté. Donc c'est la personne elle-même qui va voir et décider...
Alors,
rentrons
un peu dans la description de ce jeu.
Donc, c'est un jeu qui va créer une place de marché. Et on utilise la chose la plus simple, parce qu'on avait fait d'autres versions avec beaucoup plus compliquées, pour qu'il n'y ait aucune barrière de langue ou de... Il n'y a pas besoin de savoir écrire non plus ou lire. Donc, parce qu'on va utiliser des cartes à jouer. Chaque personne va recevoir 4 cartes au départ.
Donc un jeu de cartes normal,
de
54
cartes. Alors il y a une petite formule pour savoir combien il faut mettre de cartes selon le nombre de joueurs. Il faut minimum 10 joueurs, sinon il n'y a pas de place de marché possible. Et le plus qu'on a joué aujourd'hui, c'est 120.
Quand même, hein.
Oui.
Ouais, c'est un beau jeu à 120,
ouais,
il faut
ouais,
plusieurs jeux de cartes là.
Ah oui,
ah, là, ça
ah, oui
plus.
Ah, c'est
oui.
pour ça qu'heureusement qu'il y a la petite formule pour savoir combien il faut de cartes.
Ah oui, oui. Donc ça dépend du nombre de joueurs.
C'est ça, voilà. Ça dépend du nombre
Très
de
bien.
Joueurs.
Alors les cartes ici ne jouent pas le rôle de la monnaie, ça
non,
joue.
Non, les cartes sont, donc mon image c'est que les gens qui vont jouer sont un village et ils ont décidé de créer des maisons ensemble et que chaque carte représente un mur d'une maison et que pour faire, quatre murs,
ouais.
Eh bien, il faut trouver quatre cartes pareilles, ce qu'on appelle des carrés,
ouais.
Donc 4 deux, 4 dames, 4
races.
Alors
on pourrait dire ça aussi, donc du coup c'est un peu comme les cartes, c'est la production de valeurs individuelles.
Tout à fait.
Il faut trouver des valeurs complémentaires pour faire un objet plus valorisant en fait.
Plus valorisant, pour construire quelque chose. Et chacun a des ressources, ces
voilà.
quatre cartes, et en les échangeant avec les autres, ça va devenir des richesses.
Voilà, alors quand on a... Donc du coup, on comprend le principe. Alors comment ça fonctionne?
Donc les gens vont s'échanger une carte pour une carte. Hein. Enfin, non, je veux dire... Excusez-moi, j'enlève ça.
Ouais.
Donc ils ont quatre cartes,
ouais.
Et ils doivent faire des carrés. Et quand ils ont un carré, venir faire enregistrer ce carré, recevoir un bonbon ou une graine,
ouais.
Et quatre nouvelles cartes pour continuer le jeu.
En fait, c'est une comptabilité des valeurs produites.
Exactement.
En fait, hein, ce bonbon ou sa graine,
voilà.
C'est juste pour compter
pour
le nombre
compter.
De valeurs qu'on a produit individuellement. Et puis quand on va faire la somme à la fin du jeu, on aura la valeur totale produite par l'ensemble des joueurs.
C'est ça. Et j'utilise les bonbons comme les cartes parce que je veux que ça soit accessible à tout le monde, parce que c'est un jeu que j'ai joué notamment avec des enfants aussi.
Ouais, d'accord.
Et donc ça, c'est le principe de base qu'on va faire tout le long. Donc c'est vraiment juste créer une place de marché et c'est assez motivant pour que les gens aient envie de s'échanger.
Donc
en
il
plus,
faut que j'ai
bonbon,
4 cartes pareilles, 4 valets, 4 rois,
voilà.
4 8. Et voilà, je vais enregistrer ma valeur créée à partir des 4 valeurs qui en général ont été produites par plusieurs joueurs, puisque chaque,
ouais.
Au départ, on n'a pas un carré, bien sûr.
C'est rare.
Et voilà, et une fois enregistré, on repart dans le jeu, on remet les cartes en jeu, je suppose.
On remet dans le pot, on en a 4 nouvelles
voilà.
Et on continue.
D'accord.
Et alors après, l'idée, c'est qu'on va faire justement plusieurs tours différents pour regarder les mécanismes différents d'échange, parce que c'est ça que je veux faire observer.
Donc en fait, ça revient à appliquer plusieurs codes finalement à l'économie.
Exactement, voilà. Plusieurs codes des mécanismes d'échange. Exactement. Et pour que les gens se rendent compte en quantité et en qualité ce qui se passe. Donc le premier,
parler du premier dans cette première partie, puis après la pause on verra les deux, trois, voire plus, et on généralisera.
Donc le premier, c'est tout simple, il n'y a aucun instrument d'échange, aucun intermédiaire, les gens doivent troquer leur carte, donc une carte contre une carte, et je précise bien que pour que le troc soit valable, il faut une double réciprocité, c'est-à-dire que chacun doit être content de ce qu'il a reçu, et pas prendre une carte juste pour faire plaisir à l'autre. Donc ils doivent s'échanger, et ça dure 10 minutes. Ce qui se passe, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que j'ai eu quelques surprises, et je prends les données à chaque fois que j'ai fait le jeu pour pouvoir faire un article dessus, parce que ça fait partie de mes recherches. Donc la plupart du temps, c'est très agréable, c'est vraiment convivial, c'est assez calme, le travail du caissier est assez tranquille, et parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'échanges qui peuvent se faire. Et très rapidement, les gens vont être obligés de ce que j'appelle tricher, c'est-à-dire de ne plus faire une double réciprocité, mais d'accepter des cartes dont ils n'ont pas besoin pour que les choses continuent.
Oui. D'accord. Donc en fait, là, tu es en train de nous dire, dans cette première étape où il n'y a qu'un troc, finalement.
Un troc, un pur troc.
Il y a peu finalement d'échanges possibles. Le troc bloque un peu, mais il y en a quand même un peu.
Il y en a un petit peu.
Voilà, donc ça donne l'illusion du fonctionnement.
Surtout s'ils se mettent à 3 ou à 5. Là, il y en a plus.
Voilà,
bien
sûr.
Mais 2 à 2, vraiment que chacun soit content de l'échange, il y en a vraiment très peu. Et alors, du coup, les gens, je vous rassure, sont tout à fait souverains, donc trichent et arrivent quand même à faire des échanges, mais parce qu'ils ils acceptent des choses dont ils n'ont pas besoin.
Voilà, ils font des échanges intermédiaires pour essayer de voir.
Voilà.
Mais parfois on dit voilà, alors si tu me donnes un roi, moi ça m'ira, on va faire l'échange pour avoir un roi alors qu'on n'en a pas besoin, et quand on va le voir pour le roi, c'est trop tard parce qu'il a déjà échangé avec autre chose.
C'est ça.
Oui.
Donc voilà, y a quand même quelques productions et les gens sont contents.
Ouais.
Et l'idée c'est du jeu, c'est qu'on fait 10 minutes de jeu, ensuite on s'arrête, on compte les bonbons parce que ça c'est
Donc on compte les valeurs produites.
Les valeurs produites, donc c'est un indicateur quantitatif.
Quantitatif, oui.
Et donc on voit selon le nombre. Donc généralement, par exemple, pour 15 personnes, au bout de 10 minutes, il va y avoir une vingtaine d'échanges.
Ouais.
Vingtaine de maisons, de carrés créés. Et puis ensuite, il y a un jeu de questions pour que les gens eux-mêmes observent est-ce que ça a été fluide, est-ce que c'était difficile, et ensuite pour qu'ils aillent voir aussi dans quel état ça les a mis à l'intérieur.
Ouais.
Est-ce qu'ils aussi souvent ils remarquent qu'ils s'en fichent un petit peu des cartes, c'est surtout la relation, et que du coup ils discutent autour des cartes, mais ils se mettent à parler avec les gens.
Ouais.
Et puis, oui, en général, les gens sont pas frustrés, mais voilà, c'est tranquille.
Oui, d'accord. Donc, et là, il y a un petit bilan.
Bilan.
Et c'est une première étape. Et alors, évidemment, après, les choses vont se corser. C'est là que ça va devenir intéressant.
Voilà.
Et puis après, ce qui sera très intéressant, bien sûr, c'est la comparaison. Et ça, on va le faire aussi. Et donc, après, on va changer les règles, puisqu'on va rajouter un élément qui est pas présent au départ. C'est la monnaie. Et alors, évidemment, là, ça va nous intéresser. Ça va être passionnant. On va voir ça dans la deuxième partie de cette émission avec toi, Sybille. Et en attendant, on va faire bien sûr notre première pause. Alors, est-ce que tu sais comment sont les pauses sur Monnaie Libre ?
Non.
Alors, les pauses musicales, elles sont sous licence libre aussi.
Hein, voilà.
Ce sont
bien.
Des musiques libres.
Ah oui, ça, c'est vrai que j'ai entendu dire.
Voilà, donc
très
on
bien.
A plusieurs musiques qu'on aime bien sur Monnaie Libre et qu'on vous fait connaître de groupes, notamment Triade, hein, qu'on aime beaucoup, mais pas que. Il n'y a pas que Triade, il y en a d'autres. Et Triade, alors à noter que Triade, d'ailleurs, c'est un groupe. Qui s'est fondé sur internet et qui est un groupe non fini, quoi. Je veux dire, c'est un ensemble de musiciens un peu hétéroclites qui bougent, hein, qui changent.
Ah, très bien.
Et il y a un musicien qui peut proposer une musique, et s'ils estiment tout ce qui allait bien, ils vont la faire. Voilà. Donc c'est et ça donne des musiques, moi, que je trouve fabuleuses. Donc, voilà,
ça me rappelle la façon dont nous fonctionnons dans Valeureux.
Voilà, donc très bien. Donc on va, d'ailleurs, je vais l'annoncer pour une fois. En général, je ne l'annonce pas parce que j'insère la musique après, mais on va écouter une musique de Triade. Voilà. Dont on donnera le lien, mais sur le podcast Monnaie Libre. On se retrouve juste après, Sybille, pour la suite de ce jeu où la monnaie va faire son apparition. Voilà, tout de suite sur Monnaie Libre. Thank you.
Voici de retour sur Monnaie Libre après donc cette pause musicale, hein, c'était Triade, magnifique morceau hein, que je vous invite à écouter, il faut écouter tous les albums de Triade. Alors, Sybille Saint-Giron, toujours avec nous.
Oui.
Alors dans la première partie, hein, on a parlé de ton parcours, hein, donc tu as fait un MBA en organisation, développement, communication, voilà. Et tu as monté cette association Valeureux, hein, où tu fais tout un tas d'activités, de travail, et notamment tu nous as parlé d'un logiciel actuellement sur lequel vous travaillez, hein, qui est un logiciel de place de marché pour les entreprises associées à un ERP. Hein,
c'est, donc, et pour tous les collectifs citoyens.
Et pour les collectifs, enfin tous ceux qui
tous
veulent...
Ceux qui veulent rendre efficace leur action.
Voilà, tout ce qui va être rendre efficace, et y compris donc compatible avec des monnaies alternatives, pas que les monnaies officielles dominantes, on les appelle dominantes ici, hein, ce qui caractérise un peu mieux. Donc, bien sûr, on est venu après sur le cœur de cette émission, hein, qui, cette histoire de logiciel mission nous intéresse aussi, puisqu'il y a un lien avec la monnaie, mais c'est ce jeu fabuleux là, hein, que tu as mis au point, qui est vraiment très intéressant en termes de phénomènes humains aussi, hein, puisque ça se fait avec des communautés qui veulent jouer à ce jeu, découvrir ce jeu, afin de progresser dans la compréhension et l'appropriation de la notion de monnaie. Alors, tu nous disais en première partie que ce jeu de cartes, hein, on en a au départ un certain nombre, et puis on essaie d'échanger au début, hein, en premier étage, première forme de jeu, on les échange avec autrui pour essayer d'avoir 4 cartes pareilles, et puis quand on en a 4 pareilles, on va la faire enregistrer. On marque une création de valeur, on retourne dans la communauté des gens qui échangent, sur le marché, dans la corbeille, hein, puisque c'est le nom du jeu, la corbeille. Et puis on continue comme ça, et sous forme uniquement de troc. Ça, c'est le premier étage. Et alors maintenant, donc, la suite.
Voilà. Alors, la suite, donc, c'est le deuxième tour, avec exactement le même mécanisme d'échange, les cartes, qu'il faut faire des carrés, et qu'on marque la valeur par un bonbon. Et là, puisque au premier tour, on a vu que c'était pas si facile les échanges, donc le petit scénario raconte que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai inventé une nouvelle technologie qui s'appelle la monnaie. Et là je sors des billets verts et donc je suis la banque qui a émis dans la nuit des billets et qui va les donner de façon totalement aléatoire et injuste à quelques personnes de l'Assemblée, comme un héritage aujourd'hui peut être injuste. C'est-à-dire certains vont recevoir un, d'autres deux et d'autres zéro. Et le troc va être totalement interdit, comme ça se fait aujourd'hui dans certains pays, apparemment la Suède, de ce que je sais. On doit acheter ou vendre des billets, enfin un billet, une carte. Voilà.
D'accord.
Donc, tout se passe bien. Évidemment, il va rapidement manquer de billets, comme dans notre... je ne vais pas le dire, mais... Donc, il va manquer des billets. Bien sûr, la banque peut fournir de nouveaux billets qu'elle a émis contre un intérêt... pour le service qu'elle rend, vous pouvez imaginer, de créer des billets. Et donc, quand une personne emprunte 2 billets, elle doit en rendre 3. Et bien sûr, on note son nom pour pouvoir ensuite l'appeler à rembourser.
C'est terrible.
donc, les 10 minutes, c'est à nouveau 10 minutes. Les gens vont donc s'échanger en achetant et vendant leur carte. Et de la même façon, produire des carrés qui seront
Et cette fois, donc, avec une notion en plus, c'est qu'il y a une carte nouvelle, en quelque sorte, dans le jeu, c'est cette fameuse monnaie,
voilà.
Qui est reconnue par tous, comme
reconnue
étant une carte, finalement, une sorte de joker, hein, qui permet de faire l'échange à tout coup.
C'est ça.
Finalement.
Exactement. Et donc, les gens qui ont beaucoup de cartes essaient de les vendre, ceux qui ont beaucoup de billets essaient d'en acheter, enfin, le jeu habituel de l'offre et de la demande.
D'accord, très bien. Alors là, donc, alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand même, je dois dire que ça diffère des groupes. Que ouais. Selon, parce que je le fais dans différents endroits, des centres sociaux avec des enfants, avec des chercheurs de monnaie ou dans les selles. Et ça diffère, mais quand même, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 10 minutes, il y a eu énormément de production de valeur.
Beaucoup plus que dans la partie où il n'y en avait pas.
Au moins le double. Donc tout à l'heure, je vous disais à peu près une vingtaine. Là, c'est au moins 40, 50, ça peut même monter à 60. Donc ça, c'est un fait. Après, évidemment, donc moi, quand le tour s'arrête, on va compter le nombre de bonbons, on va aussi appeler les gens à rembourser.
Et oui, à rembourser la part, parce qu'il y a il y a un peu de monnaie qui a été...
Très peu.
Et le reste, l'essentiel de la monnaie, ça a été de la dette. Hein.
C'est ça. Et en plus, au bout d'un moment, la banque peut vendre des cartes pour créer encore plus de demandes de billets.
Oui. Ah oui,
Bah oui. J'adore être banquière. Ouais, je m'amuse beaucoup à ce moment-là. Alors, c'est vrai que selon les groupes, les gens vont avoir plus ou moins de facilité à emprunter. Donc, certains groupes, va y avoir très peu de gens, donc, puisque je vais demander à tout le monde de venir rembourser. Certains ont peut-être même commencé à me rembourser pendant le tour, mais la plupart ont joué simplement et se sont... ont emprunté de plus en plus. Et donc, à la fin, j'appelle les gens, et ceux qui ne peuvent pas me rendre leur dû, c'est-à-dire s'ils en ont emprunté deux, ils doivent me rendre trois, et donc quatre, six, s'ils ne peuvent pas, je regarde s'ils ont vraiment beaucoup de bonbons, donc on pourrait dire que c'est leur actif, et je les prends ou pas, enfin bon, à la tête du client, comme d'habitude, et ceux qui ne peuvent pas rembourser, je les mets en prison pour faillite.
Ouais. Et donc, quand tu prends quelques bonbons, tu joues le rôle de l'huissier, et quand tu mets en prison, évidemment, tu joues le rôle...
Bah, et de la banque, il récupère son avoir, puisque, hein, comme une hypothèque, moi, j'ai prêté, on me
c'est
doit
l'argent. C'est quand même
l'argent.
Ton argent.
Bah, ouais, c'est quand même mon argent, et puis ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail pour le faire.
Alors, quel est le bilan des coûts? Alors, donc, on a créé beaucoup plus de valeur. Donc.
Beaucoup plus de valeur. Donc, en général, il y a 20% de personnes en faillite.
Ouais.
En 10 minutes. Hein.
Alors qu'il n'y en a pas dans la première partie.
Non, il n'y en a pas. C'est même monté à 50% dans certains groupes,
ouais.
Avec des gens de catégories défavorisées, peu éduqués. Ils ont un autre un rapport vraiment à l'emprunt différent de nous.
Oui, ouais, d'accord.
Et puis, finalement, quand on compte, parce que je vais donc ramasser l'argent de ceux qui me le doivent, reprendre tous les actifs de ceux qui ne peuvent pas payer et tout ça, et du coup, à la fin, ça ne fait pas tant de bonbons que ça. Parce que j'ai récupéré la plupart des bonbons, puis ça fait pas tant de billets qui restent, puisque j'ai récupéré la plupart des bonbons.
Alors disons qu'il y a eu plus de valeur, mais le bénéficiaire,
c'est moi.
C'est le banquier,
et
c'est
oui.
Ça. C'est-à-dire que ce qu'on oublie de dire dans l'économie finalement dette, c'est que bien sûr, oui, c'est bon pour l'économie.
Et c'est très efficace.
Oui, c'est très efficace. Oui, ça permet de créer beaucoup de valeur, mais bon, on vous l'a pas dit, mais c'est pas grave, on vous le dit à la fin du jeu. Mais regardez, celui qui, par contre, à qui ça bénéficie, qui en a le plus,
oui,
c'est
moi.
C'est la banque.
Donc moi, à la fin, j'ai tous les billets, tous les bonbons.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit avec le jeu... que oui, ça crée beaucoup plus de malheur, mais on voit apparaître quelque chose qui qui n'apparaît pas quand on parle de l'économie au sens large et tout.
Non, parce que c'est difficile à voir.
C'est difficile à voir, c'est que surtout, c'est beaucoup de croissance au bénéfice du banquier.
Tout à fait.
C'est ça qui est extraordinaire.
Aussi, ça crée aussi une inégalité dans la population, on va dire, des joueurs, parce que certains vont avoir plein de billets et d'autres pas du tout. Et d'autres sont complètement en faillite, me doivent moins 9, enfin bon, vous voyez.
Ouais.
Et donc ça crée vraiment, on voit très rapidement l'effet Pareto se faire, sachant que bien sûr c'est la banque qui remporte.
Mais on retrouve un système pyramidal, parce qu'on va avoir donc le banquier qui en a le plus, qui a concentré le plus de valeur, parce qu'il a récupéré ses dettes, plus les intérêts, donc il a récupéré beaucoup de bonbons. En deuxième étage, il y en a quelques-uns.
Un ou deux.
Quelques-uns, qui en ont quand même créé un peu. Alors, ils servent de caution au système. Hein, c'est les mecs. Regardez, il y en a qui ont réussi, c'est les autres, vous avez mal travaillé.
Et c'est là que je joue en disant qu'il faut faire des écoles d'économie pour les étudier, des écoles de business. Parce que, enfin,
et puis c'est qu'ils ont mal travaillé, forcément.
C'est qu'ils ont très bien travaillé.
Non, mais
ceux qui sont en prison, ils sont irresponsables, bien sûr. Et je joue à vraiment à cause d'eux, toute la société va mal, et que voilà.
C'est quand même excellent ce jeu,
oui, c'est
magnifique, parce que finalement, bon, bien sûr ça demande du recul, parce que moi, quand on a joué ce jeu, on va passer à la troisième étape, qui est très intéressante aussi, hein, faut pas perdre la suite. Mais ce qui m'avait frappé, par contre, c'est parmi les gens qui avaient joué, c'est l'absence de recul des gens qui... Voilà,
alors justement, c'est à la fin de ce deuxième jeu où on va voir ces mécanismes, que des gens sont en prison, que finalement je crois. Et là, on va à nouveau se demander qu'est-ce qu'on a vu. Donc toujours, j'essaie de...
Ouais.
J'offre un espace où les gens vont pouvoir passer en méta-observation pour regarder ce qui s'est passé de façon visible sur l'extérieur. Donc les flux, combien il y en a, comment ça s'est... Et puis, qu'est-ce que ça leur a fait?
Ouais.
Et là, ce qui est très très étonnant, c'est que dans ce tour, il y a très souvent des gens qui vont tricher, voler. Ils disent tous que les personnes n'existent plus, ils ne voient que les billets verts.
Ouais.
Ils ne regardent plus les gens dans les yeux, ils se dirigent vers le billet. Donc il y en a qui s'arrachent les billets, et il y en a qui se sentent tellement mal, ne peuvent même plus échanger, se sentent complètement coincés. D'autres qui développent des stratégies et là ils deviennent vraiment c'est souvent eux qui adorent ça, ça les émule. Et alors aussi, ce qui était très drôle, il y a un jour, il faudra que j'ai un appareil pour mesurer le son, parce que ce n'est pas du tout le même son que le premier. Le premier, c'est assez calme. Et là, moi, en général, ça me fait mal à la tête tellement il y a de bruit violent. Parce que pendant 10 minutes, les gens vont... C'est une ruche, quoi, vraiment. Ouais. Voilà. Donc, en général, la plupart des gens ne sont pas du tout satisfaits de ce moyen d'échange, sauf celui qui a eu tous les billets, et qui, même de temps en temps, n'est pas vraiment satisfait en se disant, oui, mais et alors et les autres ?
Ouais.
Ouais. Et puis ceux qui sont en prison se sentent mal, et ceux qui regardent que ceux qui sont en prison se sentent mal qu'il y ait quand même 20% du village qui sont en prison. C'est incroyable.
Ouais. Oui, mais c'est efficace. On a créé quand même plus de valeur d'un point de vue strictement
c'est efficace.
Au bénéfice du banquier. Donc c'est efficace en tout cas pour le banquier.
Et puis on peut dire pour créer des maisons.
Et pour créer des maisons.
Après, les maisons ne sont plus à nous. Mais
il va pouvoir les louer.
Il peut les louer. Mais est-ce que plus on joue, plus la banque va s'enrichir. Hein.
Bien sûr. Ouais. Donc là, c'était la deuxième étape. Alors, c'est très intéressant, bien sûr, puisqu'on voit le saut. Si on fait un méta-bilan par rapport à la première partie, du troc à la monnaie, on voit l'intérêt. On a créé beaucoup plus de valeur. Par contre, au bénéfice du banquier, au détriment des autres, avec des perdants en prison, des gens qui ont un peu gagné, et puis un banquier qui a beaucoup gagné. Donc,
et des très mauvaises relations sociales.
Alors, on arrive maintenant... Alors, ça c'est génial, c'est la dernière partie du jeu, hein, la troisième partie. Comme tout système cohérent n'est jamais complet, on pourra toujours inventer d'autres parties, donc je pense que j'ai une petite idée là-dessus, mais on arrive
à... Moi aussi, j'ai plein d'autres tours à faire, mais là, dans le cadre d'une conférence, d'une animation, j'ai décidé de faire ces trois tours, et donc le troisième...
Alors le troisième, très intéressant, puisqu'on va dépasser la dette là.
C'est ça. Et donc là, c'est à nouveau une petite explication que j'ai inventée, que j'ai vraiment eu mal de voir tous ces gens en prison et tout ça. Et j'ai voulu développer une nouvelle technologie. Et là, j'arrive avec un crédit mutuel. Donc le crédit mutuel ou troc notifié ou chambre de compensation. Rien à voir avec la banque. Hein. Et donc, c'est où pour chaque échange, il va y avoir une double écriture, entre guillemets, plus 1, moins 1.
Donc oui, alors c'est un petit bracelet, hein, c'est ça.
Voilà, alors c'est toujours la même chose parce que je ne veux pas faire de barrière par les chiffres, par l'écriture et surtout les chiffres. Il y a des gens qui sont. Donc c'est un petit bracelet qui est gradué de 0 à moins 5 et de l'autre sens à plus 5 avec une petite pince à linge qui fait qu'on peut bouger. C'est fait exprès que ça soit un petit peu difficile parce que je veux dire aussi d'autres choses avec cette technologie qui n'est pas si simple.
Alors à noter hein, que le là-dessus, donc c'est un bracelet, donc effectivement entre 0 et moins 5, il y a une partie négative, une partie positive.
C'est ça.
Alors évidemment, ça serait équivalent d'avoir un bracelet qui irait de 0 à 10. Hein,
c'est ça, sûr. Mais pour moi, c'est très important qu'on aille dans le négatif.
D'accord, très bien.
Et donc là, les gens vont à nouveau, donc après la petite explication, à nouveau échanger, mais à chaque fois qu'ils s'échangent une carte, enfin qu'ils achètent une carte, ils l'achètent en unité, et c'est exactement le même principe qu'utilisent les selles ou les banques de temps.
Oui, d'accord.
Alors là, ça se passe.
Donc ça revient, en fait, ça revient à faire par rapport à la première partie. C'est comme si, au lieu d'avoir mis un peu de monnaie comme ça juste pour qu'elle existe, puis de la dette derrière, c'est comme si chacun avait reçu 10 billets,
exactement,
finalement, de façon
exactement
équitable entre tous.
Équitable entre tous.
Voilà, sans dette.
C'est ça. Et sans banque.
Sans
il n'y a pas de pouvoir central.
Le
c'est
banquier,
directement pair à pair. Voilà. Je n'ai plus rien. J'ai donné gracieusement.
Voilà.
C'est petit porte-monnaie, que j'appelle ça des porte-monnaies.
Oui, oui.
Et alors là, qu'est-ce qui se passe à la fin des 10 minutes? Donc déjà au niveau du son, c'est très actif, mais beaucoup plus agréable. Alors ça me fait pas mal à la tête. le nombre, donc de la même façon, on va compter le nombre de valeurs réalisées par les bonbons. Donc là, il est au moins égal au tour précédent.
Au moins égal.
Au moins égal. Souvent plus.
Souvent plus.
Sauf si c'est des gens, par exemple des enfants qui ont un petit peu de mal à manipuler le bracelet.
Ouais.
Voilà, ça peut ralentir. Mais sinon, donc c'est très productif. Il n'y a donc personne en prison.
Et il n'y a pas de concentration de valeur entre les mains d'un seul.
Non, sachant que quand les gens sont à plus 5, ils ne peuvent pas aller au-delà, donc ils doivent du coup acheter, et moins 5, ils ne peuvent pas aller au-delà, donc ils doivent vendre.
Ouais, hein, d'accord.
Donc de temps en temps, il y en a qui sont un peu coincés, mais hop, ça se décoince.
En gros, ils arrivent à se décoincer.
D'accord. Voilà, ils arrivent à se décoincer. Donc là, ce qu'on voit, autant d'échanges. Et puis, au niveau de l'ambiance, beaucoup plus agréable. D'un seul coup, les gens se sont à nouveau regardés. Ils se sont même entraînés. ça a créé de la coopération, ça a mis un... Moi, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus serein. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que, parce qu'on fait aussi le calcul de tous les plus et les moins de chaque porte-monnaie qui doit donc être égal à zéro, et il n'est jamais égal à zéro. Pourquoi ? Parce qu'une technologie manuelle comme ça, c'est trop compliqué.
Ouais.
Et il faut absolument qu'on s'aide par des systèmes d'information. Donc il faut faire la même chose sur un mobile,
Si
on voulait le faire en vrai.
À noter quand même que si tu leur avais simplement donné 10 billets à chacun, plutôt que de jouer avec son bracelet, ça marcherait très bien.
Alors, c'est ce que Matthew Slater fait.
Ah, oui.
Et alors moi, je ne veux pas faire ça comme ça.
D'accord.
Parce que c'est, pour moi, il y a quelque chose de très... il y a quelque chose à dépasser par rapport à notre dictature du positif dans notre société, où il faut toujours être positif, positif, positif. La vie n'est pas comme ça, on a des cycles. Et moi, je prends la métaphore de la respiration. La respiration, on inspire, donc on se gonfle, on peut dire qu'on est positif, et puis on expire, et donc on devient négatif.
Oui, mais par exemple, on peut très bien dire, oui, on inspire, on expire. Quand j'expire, j'ai zéro air dans les poumons, et quand j'inspire, j'ai 10 d'air dans les poumons.
Eh bien, je sais que c'est ce que que tu préconises, de changer le référentiel. Pour moi, au moins en une étape, c'est très très important que les gens acceptent d'aller dans le négatif. Et je vois que dans ce tour, il y a des gens que c'est un problème d'aller dans le négatif.
Eh oui.
Et
c'est qu'un changement de référentiel.
Oui, mais justement, ce changement de référentiel fait partie de l'éducation.
Oui, d'accord, mais là, tu l'imposes, en fait, mais c'est qu'un changement de référentiel qu'on peut faire de façon individuelle, parce que, imagine qu'on ait un système d'information. Évidemment, chacun par exemple, donc à 10, donc la moyenne est à 10 par personne, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, si on a 20, on est au-dessus de la moyenne, et si on a 0, on est en dessous.
Mathématiquement, je suis tout à fait d'accord.
Donc, chacun pourrait compter son compte simplement en disant, quand on a 10, on est à 0, et puis quand on est à moins de 10,
on
est en négatif.
Mais pourquoi compliquer ? Pourquoi pas faire juste par le...
Non, mais l'avantage de cette méthode, c'est que chacun peut choisir d'être soit en positif-négatif, soit qu'en positif. C'est qu'un changement de référentiel qu'on peut faire individuel sans devoir impacter tous en même temps. On n'impose pas le code à tous.
Tout à fait.
Voilà.
Et là, en fait, je choisis de faire comme ça pour qu'on puisse discuter de qu'est-ce que ça fait d'être en négatif, parce que par rapport à être en négatif au tour précédent, c'est-à-dire devoir à la banque et risquer d'aller en prison, dans mon jeu, dans la vie réelle aussi d'ailleurs, c'est important que les gens s'autorisent à être en négatif, et c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont recevoir plus et d'autres donner plus. Et c'est vraiment pour le changement de conscience que je...
Oui, alors à noter que c'est intéressant, parce que toi tu fais selon ce modèle-là, Mathieu, ton collègue, fait avec...
Alors lui, il fait le jeu complètement différemment.
En positif, d'accord.
Mais et il finit par la dette, par le deuxième tour.
Ah, il finit en plus, d'accord.
Alors voilà. Moi, j'aime mieux, c'est graduel. On va vers de plus en plus d'efficacité et de liberté.
D'accord, mais pour en revenir à cette histoire de positif et négatif, donc tu as un collègue qui le fait en positif, toi tu le fais en positif et négatif, et moi je propose une méthode où c'est chacun qui choisit finalement, en quelque sorte, son... Mais évidemment, c'est plus dur à faire sans le modèle d'information.
C'est ça. Quand on est sur du physique, et Mathieu le fait parce que du coup, il reprend les mêmes billets verts qui ont servi à la monnaie rare.
C'est plus simple.
Pour lui, c'est plus simple comme il est nomade.
D'accord. Ça, c'est très, très intéressant. Alors, ce qui a été pas mal aussi quand on s'était rencontrés, qu'on a découvert ce jeu, enfin que moi, c'est la première fois que je le voyais, qui est très bien. Alors, c'est une sorte de Monopoly en miniature, en quelque sorte, sauf qu'on joue à plusieurs règles, alors qu'au Monopoly, il n'y en a qu'une aussi.
C'est ça, et qu'on est debout et que c'est très dynamique et ludique.
C'est dynamique, en plus, il y avait des cartes, donc c'est vraiment bien. Il y a trois étapes qui permettent de prendre conscience qu'on peut avoir une économie de trois façons différentes, et on peut voir après laquelle, finalement, est la plus acceptable, la plus efficace.
Parce que bien sûr, la dernière étape, c'est de comparer les trois, que les gens se disent, tiens, on peut peut-être faire autrement, et si on se donnait les règles qui nous rendent meilleurs.
Exactement. Et alors donc, évidemment, il y a quelque chose que ce jeu ne permet pas de voir, évidemment, et puis là, on arrive dans la problématique de la TRM.
Tout à fait.
C'est que là, évidemment, alors, tu me disais, tu l'as un peu découvert aussi quand on en a parlé, ou tu en avais...
Je m'étais rendu compte que le crédit mutuel a des limites.
Voilà,
je le sais. Aujourd'hui, il n'y a pas autre chose de mieux pour le moment.
Voilà. Alors évidemment, ce qu'on ne voit pas dans ce jeu, c'est pour ça aussi que c'est qu'évidemment, pendant tout le jeu, c'est les mêmes individus qui sont au début et les mêmes qui sont à la fin. Alors qu'évidemment, dans la vie, ce n'est pas ça.
Exactement.
Chaque année, il y a des gens qui meurent, chaque année, il y a des gens qui naissent, et tous les 80 ans, on est entièrement changé.
C'est ça.
Donc évidemment...
Et même des gens qui partent.
Voilà, il y a des gens qui
déménagent.
Voilà, donc on a des problèmes quand les gens partent, et on peut imaginer quelqu'un qui a tout dépensé, il a rajouté de la monnaie dans l'économie. Si on rajoute chacun qui vient après avec le même crédit mutuel,
Ben, ça ne sera pas la même chose, évidemment.
Si on a... Les comptes seront plus équilibrés.
Les comptes seront plus équilibrés, etc. Alors, donc, là, l'idée, c'est que, bien sûr, ce jeu intégrait une partie temporelle, finalement.
Tout à fait.
Où il y en aurait qui partiraient parce que simplement ils meurent, hein, ou ils sont bons, bon, mais à la limite, le plus simple, c'est de dire qu'ils meurent. Et ils reviennent à la limite comme nouveau-né. Hein.
Ouais,
ça pourrait même presque
les mêmes,
être les mêmes. Ouais. Voire même, il pourrait y avoir une queue entre ceux
c'est
qui
ça.
Partent.
Et comme ça, on fait la,
voilà.
La boucle de la réincarnation.
Il y aurait une réincarnation, exactement.
Express.
Avec. Donc, il y aurait la reine centrale. Alors, tout le monde ne pourrait pas jouer en même temps.
Non.
Mais chacun passerait par le jeu.
Exactement.
Voilà. Voire une fois, voire même deux fois, pourquoi
oui,
pas.
Oui, oui.
Et l'idée là, ça serait de dire ben, vous ne rentrez pas avec une quantité fixe. Non, parce que là, à cause des gens qui partent, qui meurent et tout, etc. Non, non, il faut un dividende universel, une petite quantité de monnaie injectée régulièrement tout le temps dans l'économie. Mm-hmm. Une quantité relative, une quantité en pourcentage, mm-hmm. sinon ça ne fonctionne pas. Il faut qu'elle soit assez... Alors évidemment, si on veut un jeu qui par exemple, qui simule des années, bon, il faut par exemple 10%, il faut rajouter 10%.
Donc il faut sûrement un nombre un peu plus... À mon avis, il faut plus que 10 personnes pour que ça marche.
Oui.
Parce que comme il y en a qui seront morts... Ou, enfin,
alors bien sûr, il faut que les 10, au moins les 10 qui jouent, puissent... il faut...
Au
moins un mort par tour, par exemple. Donc un qui sort et un qui rentre. Donc au moins, il faut être au moins 12. Au moins 12. Si on en veut 10 qui jouent, un qui meurt à chaque fois qu'il... Alors, il faudrait compter un tour toutes les minutes, par exemple.
Là, j'aurais besoin d'un assistant,
mais voilà,
parce que je ne pourrais pas tout compter.
Ça demanderait un peu plus de travail.
Ouais.
Et donc là, bien sûr, on aurait l'étape ultérieure, qui est plus difficile à voir. Hein. Tu es d'accord
et
avec ça?
Est-ce que j'aimerais vraiment qu'on mette ça en place pour l'essayer? Parce qu'aujourd'hui, le crédit mutuel, bon, bah, c'est un peu une rustine, hein, mais c'est pas viable, puisque ça ne prend pas en compte les générations futures. Et un projet qui ne prend pas en compte les générations futures, bah, c'est temporaire, quoi.
Il faut
le savoir.
Mais surtout, alors, le problème, évidemment, c'est difficile à voir, parce que dans la réalité, ce changement de génération, il se fait à pas très lent. C'est-à-dire
oui,
que chaque année...
Oui, nous-mêmes, on peut pas se voir mourir.
Voilà. Donc c'est très difficile à voir, très difficile à percevoir, mais bon, une fois qu'on l'a compris, on peut plus s'en passer, quoi.
On
est obligé d'en tenir compte. D'accord. Bon, mais
et donc moi, ce que je voudrais, c'est que voilà, qu'on se réunisse, parce que j'ai aussi d'autres. Je voudrais qu'on teste d'autres mécanismes pour pourquoi pas aussi comment fonctionnent les monnaies basées sur des valeurs comme l'or ou des. On peut essayer plein de choses et surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye la TRM.
Le dividende universel.
Et donc qu'on se prenne une demi-journée, on est 30 et on essaye plein de choses et puis on affine et puis.
Ouais.
Et alors aussi un jour, je voudrais qu'il y ait une caméra qui nous filme au-dessus et pour qu'on puisse voir les échanges en accéléré.
Alors si ça est fait, bien sûr, il faut le filmer, etc. Mais il faudrait aussi faire un bilan avec un tableau bien chiffré.
Ah bah, bien sûr. Ah bah, de toute façon, d'ailleurs, si vous utilisez, donc ce jeu est disponible en Creative Commons, comme je l'ai dit, et avec tout le matériel qu'il faut, dont ce qui est très important, c'est la feuille de relevé des métriques.
Ouais.
Et que je vous demande après de m'envoyer, vous dire un tableau très facile à remplir.
Ah oui, parce que tu récupères, aussi des expérimentations de ce jeu que tu fais pas toi-même, qui sont faites ailleurs.
Exactement.
Et tu récupères les données parce que tu les intègres dans une analyse générale.
C'est ça. Bah, j'ai un tableau Excel, hein, pour le moment, ça se limite à ça.
Ouais, mais
l'idée est pour faire des variations, parce que par moment j'ai eu des surprises, hein, quand même avec ce jeu.
Et tu as fait des articles récapitulatifs sur un ensemble comme ça d'expériences?
Non. J'ai pas mal d'articles à écrire, mais en ce moment je suis en train d'écrire un livre, donc voilà, et puis le logiciel et tout ça, donc j'ai plutôt besoin qu'on vienne m'aider pour faire tout ce que pour que je puisse me consacrer à ça.
Et sur Valeureux, il y a aussi une partie blog où tu publies un peu
Non, je me fais vraiment gronder par tout le monde de pas publier assez, donc c'est très bien qu'il y ait un interview comme ça, parce que pour moi c'est peut-être plus facile que de prendre du temps et d'écrire.
D'accord, ouais, parce qu'aujourd'hui aussi il y a beaucoup de choses qui se font par blog pour être
au courant. Je sais. Alors on poste quand même régulièrement sur Valeureux, mais pas du tout.
Eh ben alors peut-être. Alors si ce qu'on peut faire, parce qu'on est sur Monnaie Libre, et si les auditeurs sont intéressés par ce jeu, de faire une journée. Alors moi je pense qu'il faut une journée complète, parce que si on veut faire bien chaque étape, faut pas 10 minutes, il faut un peu plus pour qu'on voit mieux ce qui se passe. Que les choses soient bien notées, bien chiffrées, pour qu'on voit aussi l'expérience. Et que bon, s'il y a des auditeurs intéressés, ben poster sur le podcast, sur Monnaie Libre, sur Monnaie Libre création monétaire.info, parce que
on peut écouter ce podcast aussi, pas forcément sur le site officiel, parce qu'on passe aussi sur Podcast France, enfin sur d'autres podcasts.
D'accord.
Donc voilà, donc vous venez
et
sur le
moi,
site
je
officiel.
Je mettrai sûrement un lien aussi vers le, voilà. sur Valeureux, vers le podcast.
Et alors, donc si ça vous intéresse, vous postez sur ce podcast Monnaie Libre, sur monnaielibre.creationmonétaire.info, vous mettez un commentaire. Et puis, si vous êtes intéressé, que vous voulez que Sibylle vienne faire une démonstration chez vous, dans le Larzac, ou dans les Pyrénées, ou à Paris.
Ou à l'étranger. Parce que j'ai des places dans toute l'Europe.
Voilà, donc vous n'hésitez pas, on relayera bien sûr. Et puis,
Puis, je tiens aussi à dire que, bien sûr, ce jeu est complètement accessible, mais je vous invite à d'abord y jouer une fois avant de vous-même le faire ou avant de le hacker. Parce que donc ce jeu a déjà été hacké,
oui.
j'en suis très honorée.
Bien sûr, bien sûr.
Mais d'abord le faire pour ce...
Oui, parce que c'est toujours pareil, les règles d'un jeu ça se peaufine, et quand elles ont été faites, c'est pas par hasard.
C'est pas par hasard,
il y a des petites choses.
C'est quand même 2 ans de développement, ça fait 2 ans que ce jeu tourne.
Voilà, c'est pour ça aussi qu'il m'a donné cette impression peut-être d'être bien pensé, bien fini, et que pour moi c'est une sorte de toboggan comme ça ou d'envoler vers la conscience, la prise de conscience progressive
tout
comme ça
fait.
De l'amélioration possible de la monnaie, d'aller jusqu'au crédit mutuel et au-delà bien sûr vers les
et
monnaies
alors en fait
libres.
Ce jeu est assez disruptif on peut dire parce que les gens une fois qu'ils y ont joué ne peuvent plus jamais oublier quel est le système monétaire actuel.
Eh oui,
je l'ai joué avec dans les grandes écoles de business, enfin partout, et à chaque fois, pour moi, c'est un plaisir, parce que 20 personnes qui savent, c'est fait.
Tu les as réveillées, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est la pilule rouge.
Oui, c'est la pilule rouge.
C'est ça,
il faut le dire à personne, mais c'est ça. À chaque fois, ça me réjouit quand j'ai fait dans ces plusieurs grandes écoles. Et à chaque fois, je me disais, et 10 de plus, et 20 de plus.
Et oui, non, mais c'est un peu ça.
Et
oui.
Tout ça, pas... ce que j'aime aussi, c'est que on ne va pas du tout par la peur. Je ne veux pas motiver les gens par la peur. Là, c'est par l'envie, c'est par l'ouverture des possibles.
Ouais,
c'est que d'un seul coup, quelque chose s'ouvre en eux leurs yeux brillent.
Je crois que d'un seul coup, on prend du recul par rapport au système monétaire dans lequel on est.
Oui.
Ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut sortir de la boîte. Hein.
Sortir de la boîte.
Ouais, exactement.
Et il y a un moment où on se rend compte du système monétaire, mais on peut être du coup très désespéré. Alors que là, non. On voit qu'il y a de l'espoir et qu'il y a d'autres choses possibles.
Si on pense qu'il est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre solution,
voilà.
qu'on est soumis à ce système, alors qu'en fait, non. C'est les hommes qui l'ont fait, ce système. Alors, ils ont fait au mieux qu'ils ont pu avec l'histoire qu'on a eue. Mais qu'à un moment donné, si on voit qu'il est limité, il faut essayer de faire mieux. Alors, il faut être prudent. Parce que là aussi, comme tu disais, il vaut mieux l'essayer avant de le hacker. Moi, je pense aussi qu'une monnaie libre, une monnaie à dividendes universels, puisque c'est les seules monnaies libres, s'il faut en mettre une en place, il faut éviter peut-être d'essayer de tout casser d'un coup. Parce que si on le fait sur une monnaie existante qui marche à peu près bien et que ça provoque une catastrophe pour des raisons qu'on ne connaît pas, on peut tout imaginer.
Parce qu'on ne peut pas encore savoir les limites des nouveaux systèmes qu'on propose.
Exactement. Donc il y a peut-être des petits paramètres à régler. Il y a peut-être des choses... en tout cas, on peut la tester. On peut mettre en place. On peut l'utiliser. Et puis si ça marche très bien, tant mieux. Mais on n'est pas obligé pour cela de détruire l'existant. Voilà.
Surtout pas. Parce qu'en plus, les choses ne se font pas comme ça dans la nature. C'est toujours une évolution constante et continue. Il n'y a pas de rupture. Et puis, ne croyons pas qu'on est en train de développer non plus la solution parfaite. Utilisons notre bon sens et c'est pas à pas et on ajuste. Et puis, une solution qui va pour un contexte n'ira pas pour un autre contexte. Donc, peut-être que ce qui est à venir, c'est une diversité de monnaies et pas une seule monnaie. Essayons de sortir des dogmes et de
diversité.
Pas nous-mêmes de redevenir dogmatiques comme ceux qui défendent le système actuel.
Exactement. Et d'une diversité, non seulement de monnaie, mais aussi une diversité de codes monétaires.
Voilà. Ah ben oui, c'est ce que je veux dire. Quand je dis diversité de monnaie,
de
code.
C'est exactement pour ça que d'un point de vue relativiste, d'un point de vue latéral, par exemple, pour parler du Bitcoin, on va le critiquer parce que c'est pas une monnaie libre au sens de la TRM, puisqu'il ne considère pas tous les hommes comme égaux devant la création monétaire. Pour autant, il ne faut pas le rejeter en soi. C'est une valeur économique intéressante qui a des propriétés technologiques d'ailleurs remarquables.
Oui.
Je l'ai dit d'ailleurs dès son lancement. Pour autant, on a le droit de l'utiliser, on peut l'utiliser, il n'y a aucun souci avec ça, bien sûr. Et même y compris de quelqu'un qui utilise une monnaie libre, on peut utiliser Bitcoin. Mais dans ce cas-là, on ne l'appellera pas une monnaie, on l'appellera autre chose, comme une valeur économique.
Oui.
Par exemple, si je considère la tasse de café qui est devant moi, Bon, mais je veux dire, c'est pas une monnaie, hein, c'est une tasse de café. Mm. Ça n'empêche pas que c'est une valeur économique.
Tout
voilà.
à fait.
Ben, le Bitcoin aussi. Voilà.
Et puis le Bitcoin, il y a vraiment des choses à reprendre pour la technologie, toute cette technique de validation des blocs qui fait un peu comme une validation par la foule, hein, qui aujourd'hui, avec tout notre désir de démocratie participative et tout ça, ça peut tout à fait satisfaire ces choses-là.
Ouais, tout à fait. Alors, bah, super, merci beaucoup, hein, Sybille, pour cette émission. Hein, je crois qu'elle était vraiment très intéressante sur ton association Valeureux. Hein, bon, alors, on a parlé de ton logiciel, hein, qui est de place de marché pour ERP. Et puis, on a parlé de ce jeu de cartes qui est extraordinaire, que j'ai trouvé vraiment génial. C'est pour ça que j'ai tenu à t'inviter dans cette émission. Et merci à Gérard, hein, de nous avoir fait nous rencontrer, ouais. Gérard Fouché, hein, qui nous a demandé donc d'intervenir. C'était un événement qu'il a organisé au théâtre du Lavoir parisien.
C'est ça.
Voilà, et qui nous a permis de découvrir, ben, pour toi peut-être la TRM, et puis pour moi ce jeu de cartes, dont je sais qu'un jeu ça prend du temps à être mis au point. Moi-même je suis joueur d'échecs, tu sais que c'est un jeu qui a 1500 ans d'histoire, hein, donc il n'a pas non plus été parfait dès le début. Hein, je veux dire, il a vécu beaucoup de changements pour devenir ce qu'il est. Aujourd'hui il est parfait. Joël Lautier, qui est un grand joueur d'échecs, disait que le jeu d'échecs est tellement parfait que parfois on se dit que c'est un dieu qui l'a créé. Non, c'est pas un dieu, mais c'est 1500 ans d'histoire.
C'est donc, ça, bah, c'est 1500 ans, peut-être un dieu, et que si nous-mêmes on pouvait vivre 1500 ans, on deviendrait vraiment sage.
Oui, on pourrait créer une monnaie qui soit vraiment nickel, quoi. Voilà. Il faut du temps, voilà. Donc, bah, écoute, merci beaucoup, hein, Sybille.
Merci Stéphane.
Merci de nous avoir suivis pour ce podcast spécial, hein, Sybille Saint-Giron, jeu de cartes monétaire. Donc, je vous invite à découvrir La Corbeille, hein, ça s'appelle comme ça.
La Corbeille,
un jeu de cartes que je vous conseille vraiment d'essayer. Et puis, donc, je vous l'ai dit, si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur valeureux.org et puis postez sur Monnaie Libre si vous voulez que Sybille vienne vous faire une démonstration quelque part. Nul doute que vous pourrez convenir avec elle d'une possibilité cet été, cet hiver, n'importe quand. Voilà.
N'importe quand, n'importe où.
Merci beaucoup et je vous laisse avec notre générique fétiche No More Dreams. Au revoir.